Notre corps ressuscitera au dernier jour pour participer au jugement général et pour être associé à la récompense ou à la punition de l'âme, comme il a été associé à ses bonnes ou à ses mauvaises actions. Ça, c'est une réponse première. Si Dieu a prévu la résurrection, c'est parce que nous ne sommes pas de purs esprits, et donc il veut que la nature humaine, dans son intégrité, assume. Mais ceux qui ont regretté leur péché seront pardonnés. Et le corps qui a participé au péché a participé aussi au regret. Donc il est sauvé aussi. Deux questions se présentent donc à nous. Le fait et le pourquoi de la résurrection. Le fait de la résurrection. L'expérience quotidienne pourrait nous porter à croire qu'une fois mort, le corps retourne pour toujours aux éléments matériels dont il est sorti. Vous êtes mangé par un crocodile. Vos os, dans l'estomac du crocodile, sont attaqués par ces sucs gastriques. Et quelques éléments de calcium de vos os vont rentrer dans le calcium de ce gentil jeune crocodile. Qui va avoir donc des atomes humains, ayant à partir d'un corps humain, dans son corps de crocodile. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Eh bien, le bon Dieu récupérera les atomes de votre corps. Bon, ça, c'est pas deux fois défini.
Et le crocodile,
Ah ben, le crocodile, lui, il ne ressuscitera pas. Sinon, il lui manquera quelques... Il aura des trous dans les os. Ça, c'est parce que j'ai mangé un homme. Bon. La foi nous apprend, au contraire, qu'à la fin du monde, tous les hommes ressusciteront. Dieu reconstituera leur corps. Écoutez-moi bien. Si j'ai une foi aussi intégriste, si lourde, c'est parce que elle m'a été transmise et je m'y accroche et je la lâcherai pas. Et un jour, vous avez un prêtre qui disait « Mais le péché originel, c'est une légende, c'est une explication imagée et symbolique. » Et bien, parmi les gens qui étaient là, il y a un père de famille qui a dit « Mais attendez, je vous entends depuis 10 minutes dire que le péché originel n'a pas jamais existé, mais l'Église, depuis 2000 ans, l'enseigne. Qui a raison ?» C'est vrai que l'autorité d'un bonhomme qui dit que le péché originel n'existe pas depuis 10 minutes, c'est un peu moins lourd quand même que l'Église qui le dit depuis 2000 ans. C'est vrai, ça c'est une bonne objection. Eh bien, figurez-vous que ça fait 2000 ans que l'Église dit « Dieu reconstituera leur corps et les réunira aux âmes qui autrefois les avaient animés. » D'où la vénération des reliques. Les reliques, ce n'est pas parce que ces morceaux de corps, d'os, ont appartenu au saint et que jamais ça ne reviendra dans le corps du saint. C'est parce que ça a appartenu au saint et que ça reviendra dans le corps du saint. C'est la raison de la vénération des reliques, figurez-vous. Et pourquoi il n'y a pas de reliques de la Vierge Marie? Ben parce qu'on n'a pas son corps. Vu qu'elle n'est ou pas morte, ou, comment dire, qu'il y a eu une dormition, et elle est en âme et en corps dans la vie éternelle. Donc elle a... Saint Joseph, on n'a pas son corps, puisqu'il y a une vieille tradition qui dit que au matin de Pâques, il est ressuscité. Avec d'autres justes qui ont été vus à Jérusalem. Le comment de cette résurrection ne doit pas nous préoccuper. Ah. On met de côté. Celui qui a créé de rien le monde saura bien retrouver dans les éléments existants le corps de chacun de nous. Là, on se moque de cette explication, mais elle est pourtant vraie. Cette réunion des âmes et des corps sera définitive et durera toute l'éternité. Nous ne savons rien de l'époque de la fin du monde. Nous savons seulement, par la science comme par la foi, que tout ce qui compose l'univers visible doit aboutir un jour à l'épuisement des forces qui lui permettent actuellement de subsister. Donc il va y avoir une modification du créé comme on le voit. Si l'Église réprouve l'incinération des corps, c'est surtout parce que, dans la pensée de ses auteurs, cette pratique signifie « quand on est mort, tout est fini ». L'Église veut au contraire respecter le corps humain, puisqu'il doit revenir un jour à la vie. C'est pourquoi, à la différence des païens qui brûlaient leur corps, elle a toujours enterré ses fidèles.
Le préfet Muller a autorisé, je crois, la crémation il y a quelques jours.
Il a toléré la crémation. Et pas depuis quelques jours, ça fait des années que l'Église le tolère.
Mais officiellement, je veux dire.
Comment ?
Il a fait quelque chose d'officiel, si je veux bien.
Oui, mais avant aussi, c'était officiel. Mais il l'a rappelé, et comme les journalistes n'ont pas de mémoire, ils disent « Oh, c'est nouveau !» Oui, mais oui,
c'est
nouveau.
Non plus.
C'est sous Paul VI, je crois. Alors pourquoi? Mais parce que la crémation se multipliait et de manière économique, sans haine de la résurrection des morts. Donc on a toléré cela. Donc on tolère la crémation si ce n'est pas en haine de la foi et de la résurrection des morts. Le premier qui touche un cheveu de ma mère et qui veut la brûler pour qu'elle prenne moins de place, c'est lui qui va brûler, vivant. Je veux que le corps de ma mère soit enseveli, et je ne vais pas brûler le corps de ma mère. Sauf s'il y a une épidémie de peste, et qu'on doit brûler les corps. Ça, c'est autre chose. Mais l'Église a toujours éprouvé de brûler les corps, parce que le corps ne le ressuscitera pas, ou... Le pourquoi de la résurrection. Oui.
Au moment de la résurrection, donc, Dieu rassemble les atomes, enfin dispersés,
oui,
pour nous reconstituer tel qu'on était au moment de notre mort.
Oui.
Mais pourtant, on dit que le corps glorieux, il est plus beau, plus.
Tout à fait. Non, pour reconstituer les éléments essentiels de notre corps. Mais quand on meurt jeune, le bon Dieu va créer du calcium. Parce qu'on va avoir, on va pas avoir un squelette d'enfant quand on ressuscitera. On ressuscite avec un corps parfait, mature. Donc les bébés ne ressusciteront pas bébés.
Et les vieillards, ils
ressusciteront pas vieillards. Le bon Dieu va refaire ce qu'il y a, les os. S'il y avait, pour tous ceux qui, pour toutes celles, mais non, les hommes, non, l'ostéoporose. Eh ben, hop, vous n'aurez pas d'ostéoporose. Hein. Le bon Dieu donne un corps mature et parfait. Les trisomiques ne ressuscitent pas trisomiques, les hydrocéphales ne ressuscitent pas hydrocéphales. En plus, vous avez des déformations de la boîte crânienne pour certaines maladies, ils ressusciteront avec une boîte crânienne sans la maladie. Eh bien, comme le dit la Sainte Église, le comment de cette résurrection ne doit pas nous préoccuper. Celui qui a créé de rien le monde saura bien retrouver dans les éléments existants le corps de chacun de nous. D'ailleurs, dans la vision d'Ézéchiel, il voit de la poussière, hein, qui tournoie, et des squelettes qui se forment devant lui. Et ensuite, la chair qui est créée sur les squelettes. Et les âmes qui reviennent dans les corps. Vision d'Ézéchiel. Hein.
Les comportements belliqueux entre... s'encadrer, si je puis dire, sur terre, donc se revoir.
Eh bien, ils seront vertueux dans la vie éternelle. Il y a un changement aussi moral. Voilà. On gardera son tempérament, mais on ne péchera pas. Les nerveux, les machins, garderont. Vous avez certains saints dans la vie éternelle qui ont une prière d'une telle manière, parce que dans la vie éternelle, on garde l'inclination de son âme légitime.
Et les vrais mauvais sont disparus.
Ah non, ils seront punis dans la haine et l'amertume.
En enfer.
C'est un état, l'enfer, avant d'être un lieu. Le ciel aussi est un état avant d'être sur terre, réorné après la fin des temps. Parce que l'âme est plongée en Dieu. Tandis que les âmes en enfer sont sans Dieu. Mais par contre, l'enfer est un lieu de fait du feu physique dans lequel ils sont. Le pourquoi de la résurrection. Pendant cette vie, l'âme fait le bien ou le mal, en se servant du corps comme d'un instrument. Le corps de l'homme est donc associé au bien ou au mal fait par l'âme. Dans ces conditions, il est juste que le corps soit associé à la récompense ou à la punition de l'âme. Et il le sera éternellement dans le bonheur du ciel ou dans les peines de l'enfer. Brûler vif sans se consumer, comme le buisson ardent, ça doit être sympathique. Mais de plus, il convient que le corps lui-même, qui aura coopéré ici-bas, devant les autres hommes, au bien ou au mal fait par l'âme, participe devant tous les hommes au jugement général dont il sera question plus loin. C'est-à-dire que la résurrection des morts, ça sera avant le jugement général. On verra Hitler. Ah, ça va. Mais ressuscité. On verra Mao, on verra Staline. On verra toutes ces personnes ressuscitées. Alors on ne les verra pas forcément vieux, puisque c'est un corps dans sa maturité. Alors qu'arrive-t-il d'abord à l'âme après la mort? Question 583 de Caspari et question 193 des diocèses de France du chanoine Quinet. Gaspari. L'âme, aussitôt après la mort, comparaît devant le tribunal du Christ pour y subir le jugement particulier. Après la mort, diocèse de France, chanoine Quinet, notre âme paraît devant Dieu pour être jugée sur ses bonnes et ses mauvaises actions, c'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Sur quoi l'âme est-elle jugée dans le jugement particulier ? Dans le jugement particulier, l'âme est jugée absolument sur tout. Gaspari. Absolument sur tout. Ça, c'est pour vous faire un peu peur. Quand même. Ce soir, vous n'allez pas dormir. Pensée, parole, action et omission. Et ce jugement sera confirmé au jugement général qui en sera comme la manifestation extérieure. Il n'y aura rien de nouveau. Oui. Devant Dieu pour le chanoine Quinet, devant le Christ pour Gaspari, c'est le Christ.
Mais devant
le Christ. Devant, ah oui, oui. Christ ressuscité, vous allez le voir en chair et en os.
Et ça, c'est jugement particulier.
Jugement particulier. Vous voyez Jésus.
Déjà
en dernier. Ah oui, 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 mais vous le voyez comme les hommes le voyaient sur terre. Hein. Vous ne voyez pas sa divinité et son essence divine. Vous le voyez ressuscité comme saint Thomas l'a vu. Comme Sainte Marie-Madeleine l'ont vu. Mais ça doit être impressionnant quand même. Bonjour Jésus, tout va bien? Tout va très bien. Pour l'instant, on passe au petit jugement, après on prendra autre chose. C'est après. Et tous les jugements particuliers, c'est juste au moment de la mort. L'âme, aussitôt après la mort, comparaît devant le tribunal du Christ pour y subir le jugement particulier. Toute autre phrase est hérétique. Et il y en a beaucoup. Non, il n'y a plus de temps de toute façon. Hein. Donc on a tout notre temps. Enfin, il y en a qui sont intéressés. Vous voyez ? Voilà. Ça dure pas très long. Ça dure le temps de la pensée. Vous voyez, donc c'est... Alors, aussitôt qu'elle a quitté le corps, ça c'est commentaire de l'évêque de Blois et du chanoine, l'âme comparaît devant Dieu pour y être jugée aussitôt qu'elle a quitté le corps. Ce jugement, le premier que l'âme est à subir, s'appelle jugement particulier, parce que l'âme y est seule en présence de Dieu. Il y aura un autre jugement, le jugement général, où tous les hommes seront réunis. On ne sera pas rejugé. Il importe de se faire une idée exacte de ce jugement particulier. Deux points. Il consiste simplement dans la confrontation de l'âme avec Dieu et avec sa propre conscience. Oui. Mais il y a la conscience. Eh ben, il a une conscience, je peux vous assurer. Un enfant de 3 ans, vous savez, quand vous ne lui donnez pas un objet qu'il veut, il va vous exprimer sa conscience. Eh bien, quelques mois aussi. Il saisit, il se plaint, il pleure.
Baptisé,
non baptisé. Tout le monde. Parce qu'il n'a pas une âme animale. Il a une âme immortelle, spirituelle. Il veut le bien, il refuse le mal. Et c'est pour ça qu'on recommande à la miséricorde de Dieu ceux qui n'ont pas pu poser d'acte de malice ou de bonté libre. Parce qu'ils n'ont pas assez de... leur pensée n'est pas claire. Elle n'est pas dans une raison claire.
Toutes les âmes paraissent devant Jésus.
Toutes.
Même celles qui n'ont pas été baptisées, qui ne sont pas deux fois...
Toutes. Toutes.
Et qu'est-ce qu'elles deviennent après?
Eh bien, si elles ont recherché le bien de tout leur cœur dans l'ignorance du vrai Dieu, et qu'elles voulaient servir le bien et eh bien, le Christ leur dit, eh bien, c'était moi que tu cherchais. Tu as été dans une civilisation qui se trompait sur la vraie nature de Dieu, mais tu as toujours voulu suivre la voie de ta conscience, là pour le coup, et donc... Mais attention, il faut avoir une très grande pureté de conscience.
Je croyais qu'il y avait un passage obligé par le purgatoire, à partir du moment où on avait... fait dans l'ensemble, on va dire, du bien dans sa vie, mais qu'on n'avait pas connu Jésus. Je veux dire, de nos jours, je veux dire, à part les petits Africains ou autres, on a quand même la possibilité d'entendre parler...
Les Africains ont plus la possibilité d'entendre de parler de Jésus qu'actuellement les aborigènes d'Australie.
Hein. C'est vrai, c'est vrai.
Les tribus kanak sont catholiques ou protestantes. Mais ils ont entendu parler de Jésus en long, en large et en travers, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Pour trouver des peuplades purement païennes, il faut aller dans l'île de Java ou des choses comme ça. Ou dans les îles d'Indonésie. Mais si une personne a toujours eu l'humilité de saisir les grâces actuelles que le bon Dieu lui donnait à tout homme, systématiquement, et qu'il a regretté les fautes qu'il a commises, et avec une contrition parfaite, il va directement au ciel. Un aztèque des années 968 ou 1011, qui a toujours suivi la voie de sa conscience, ou qui a regretté très profondément toutes ses fautes, il n'y a aucune raison de ne pas être un saint.
Oui, mais alors le jeûne... dont vous parliez, par exemple, qu'il y avait des parents qui vivaient en concubinage.
Oui, ben il peut être un homme extrêmement honnête.
Oui, mais on va dire que celui-là, il a entendu parler de Jésus, mais il s'en fiche. Parce que...
Et d'une morale plus construite que de vivre avec une femme sans avoir l'engagement de rester avec elle. Mais le bon Dieu, quand même, lui donnera des grâces, de doutes, pour qu'ils se disent, je devrais quand même peut-être me marier. Il entend parler du mariage.
Oui, mais là, le premier commandement, c'est quand même, tu adoreras Dieu seul.
Tout à fait. C'est pour ça que saint Paul nous dit que pour se sauver, on doit voir que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. Donc il faut qu'à un moment donné, ils aient l'humilité quand même de s'adresser à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Ouais. Et que de se dire qu'ils n'ont pas que leurs parents qui leur ont donné la vie.
C'est pas le tout, on va dire.
Et tout à fait.
De faire du bien autour de soi, si on...
Oui, mais voyez-vous, quelqu'un qui fait du bien systématiquement, je peux vous assurer quand même que c'est quelqu'un de particulièrement humble. Moi, j'ai un ami, le bon Dieu m'a quand même donné des exemples assez impressionnants, parce que j'ai un ami qui a été baptisé à l'âge de 42 ans, avec qui que j'ai connu depuis l'âge de 16 ans, on discutait pendant 3-4 heures, comme vous pouvez facilement vous l'imaginer. Et lui parle autant que moi, donc voilà. Mais c'était à perte de vue sur Dieu, sur le bien, le mal, tout, sans arrêt. Et comme il avait épousé une demoiselle qui, elle, avait été blessée par la mort de son père, et ne voulait plus aller à l'église à cause de la mort de son père, ne voulait pas de mariage religieux parce que Dieu l'avait déçu. Mais ce n'était pas de son fait, lui aurait voulu se marier. Ils se sont mariés civilement, mais lui savait qu'un baptisé a l'obligation de se marier religieusement. Mais lui, il disait, ben, je l'aime, je l'aime à la vie et à la mort, je veux avoir des enfants avec elle. Si elle, elle pêche, en tout cas, moi, je... Tant que je ne suis pas persuadé que la foi catholique est la vraie religion, c'est un homme d'une intégrité assez impressionnante. Hein. Parce qu'il pouvait dire ça. On avait des discussions là-dessus. Il disait, oui, mon épouse civile devrait se marier religieusement, enfin, mais ce n'est pas de ma faute. Je suis censé de ne pas être croyant. Moi, pour l'instant, je suis agnostique. Et donc, moi, je veux me marier jusqu'à la mort. Je me suis marié civilement pour ne pas divorcer. Donc il se marie comme toute personne devrait se marier, même non chrétien. Comme je vous disais, en Inde, je peux vous assurer que, vu qu'ils s'endettent sur 20 ans pour la dot de leur fille, le premier qui divorce, le divorce n'est pas très fréquent dans les campagnes hindoues. Vous voyez, parce que c'est un mariage qui dure une semaine, deux divinités qui s'unissent, beaucoup beaucoup d'argent, et donc on va pas refaire ça toutes les deux minutes. Hein. Donc le droit naturel a rattrapé les hindous par les soucis patriarcaux et patrimoniaux.
Oui, mais est-ce que Dieu n'aurait pas voulu plutôt qu'il se trouve une autre fille très bien, tout aussi bien, et se marier à l'église?
Ah, tout à fait.
Parce que je veux dire,
oui, mais lui, c'est pas de sa faute si.
S'il l'aimait.
Ben lui, il l'aime authentiquement comme un bon agnostique, et il, quand on a parlé du droit naturel et qu'il ne doit pas divorcer, il était totalement d'accord. Oui,
oui, pardon, oui, c'est pas de sa faute, mais quand même, il a préféré la femme de Dieu que le commandement de Dieu.
Mais, bah voilà.
Oui, mais lui, il ne croyait pas en Dieu.
Ah, il ne croit pas en Dieu, moi je pensais. D'accord.
C'était avant son baptême.
Avant son baptême.
Ah, mais on avait des discussions extrêmement franches. Ah oui, il s'est marié civilement, mais mais il savait que sa femme péchait, mais lui, il considérait qu'il péchait pas.
Et maintenant qu'il est baptisé.
Ah ben, attention. Donc, à un moment donné, il a eu la grâce, on discutait, il m'a appelé, parce qu'il est parti à La Rochelle, il m'a dit, j'ai demandé le baptême. Pour moi, maintenant, c'est évident. Dieu existe, et la seule religion vraie, c'est l'Église catholique. Parce que si Dieu existe, il n'a pas pu ne pas faire une église pour nous enseigner qui il est. Et deuxième argument, il m'a dit, force est de constater pour lui que la seule religion qui est un enseignement qui ne se modifie jamais et qui est unie, c'est l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle en ce moment, vous voyez, vous avez un petit trouble avec des quatre cardinaux qui disent au pape François, mais vous êtes sûr qu'on peut... comment dire, avoir une deuxième union tout en étant déjà marié. Enfin, à part le divorce et la polygamie, on ne voit pas comment on peut arriver à ça. Et le pape François, il fait bouh. Et ben, bon, et ben, pour l'instant, on attend. On attend des éclaircissements. Mais il va y avoir forcément des éclaircissements parce que, comme disent les quatre cardinaux, la Sainte Écriture, la tradition des pères et tel ou tel texte du magistère disent que. Donc ils mettent le pape au pied du mur. Le pape ne peut pas changer la foi. Il n'a qu'une seule possibilité, enfin deux. Soit dire, eh ben, on retourne à la foi, enfin on garde la foi, soit je suis hérétique et je ne crois pas ce qui a été enseigné avant moi. Et alors on lui dit, ciao. Alors le problème c'est que le pape, personne ne peut le juger, donc on va attendre qu'il meure, ou alors les cardinaux vont se réunir et vont élire un autre pape, qui va juger de ce pape-là, ou alors il meurt et l'autre pape va dire il avait écrit n'importe quoi. En tout cas, en ce moment, à Rome, c'est plutôt tendu.
Il viendra en Avignon.
Comment ? Mystère et boule de gomme, mais je peux vous assurer qu'en ce moment, Il y a peu de prêtres qui osent commenter ça comme je le fais. Mais le pape François, il est libre, Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. Et il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, mais à un moment donné, il doit rendre compte de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, sans problème. C'est un grand garçon, oui.
Il veut garder le silence comme il fait ou répondre.
Ah ben s'il garde le silence, c'est le plus pratique. Il ne tombe pas dans l'erreur. Voilà.
Mais il va avoir droit à l'acte formel de correction.
Oui, le cardinal Burke a dit on fera un acte formel de correction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Très Saint-Père, vous gardez le silence et ça nous ennuie. Ah, bon, c'est tout. Mais tant que le pape ne dit pas quelque chose qui est formellement contraire à l'enseignement définitif de l'Église, pas seulement au dogme, hein, eh bien tout va bien.
Il a fait que ça depuis
3 ans. Ah, mais ça, non. C'est pas précis. Dans Amoris et Laetitia, vous avez le paragraphe qui dit que la conscience est merveilleuse, c'est fantastique. Et le pénitent peut très bien être considéré être en état de grâce et le prêtre a tort, ou n'a rien à dire. Mais ça, c'est une sorte de moment magique de la conscience où vous êtes là sans avoir pris un Red Bull ou une grosse dose de hashish, vous êtes complètement illuminé. Ah, vous dites Dieu m'aime et il me dit que j'ai raison. Parce que le paragraphe d'après dans Amoris et Laetitia dit toutefois, loin de nous le relativisme de ne pas éclairer les consciences. Donc si une personne est omnubilée, une aberration de la conscience absolue, l'espace d'un instant, et dit mon père, bénissez-moi parce que j'ai pas péché. Ah ben là, oh, le prêtre lui-même tombe en extase, sans prendre d'extasie, et là, oh, ils sont là, oh, vive Dieu, alléluia. Vous voyez? Mais dites-moi moi quand même quelque chose, vous êtes mis en colère. Ah oui, bon. Mais si pendant cette extase, il y a un nom particulier que j'oublie toujours, une sorte de moment de grâce, de suspension extatique de la conscience. Et là, vous avez le scribe, le docteur de la loi, qui est là, il laisse la personne revenir sur terre, il lui dit gentiment, mais au fait, en fait, c'est pas vrai. Objectivement, ça va pas. Vous avez été marié. Ou la personne à qui vous êtes a été mariée. Donc, on va essayer de cheminer, n'est-ce pas, pour que vous preniez conscience de ses engagements, voilà. Et comme l'engagement ultime, c'est de dormir ensemble, de coucher ensemble, eh bien, tant que vous êtes conscient de cet engagement précédent, eh bien, vous devez vivre dans l'estime mutuelle, dans l'amitié, mais pas dans l'amour conjugal, puisqu'il a été promis précédemment, et qu'il n'est pas rompu, et qu'on ne peut pas le rompre. Et que même le pape ne peut pas le rompre. Donc voilà, pour l'instant on est suspendu à la réponse. Parce que d'autres exemples, je suis désolé, quand le pape dit « qui suis-je pour juger » par exemple des personnes qui ont des tendances homosexuelles, il faut distinguer. Je ne suis pas là pour les condamner et dire qu'ils se damnent, ça c'est vrai. Jugement, condamnation, certain. Qui peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les méandres d'une conscience, d'une âme, avec ce qu'il a vécu, son éducation, des chocs, des imaginations particulières qui l'ont saisi, tout ça. Ça, c'est. Mais par contre, on peut lui dire faites attention, ne passez pas à l'acte et vivez chastement. Ça, on peut le dire. Et c'est un jugement pratique, pas un jugement de condamnation. Donc, si on prend la phrase du pape comme un jugement, comme par rapport au jugement de condamnation, il a raison. Si on prend la phrase du pape par rapport à un jugement pratique, il a tort. Mais on ne sait pas dans quel sens il a dit cette phrase. Qui suis-je pour juger? Juger condamnation, il a raison. Juger aide aux personnes qui ont cette tendance, il a tort. Mais on oublie que des hommes hétérosexuels sont parfois très, faibles et ne sont pas très fidèles à leur épouse, Ben, c'est tout aussi pas bon, je suis désolé. Si leur imagination bat la campagne, ils pensent toujours à des jeunes femmes et tout ça, comme d'autres penseraient à des jeunes hommes, je dis, c'est, si vous voulez, c'est pas bon non plus. On haro-haro sur les homosexuels parce qu'on, il y a des lobbies, pas forcément homosexuels d'ailleurs, qui mettent en avant tout le temps les LGBT. Mais vous avez des personnes qui ont des tendances homosexuelles qui sont profondément blessées de cette publicité permanente, de cet étalage permanent. Ils disent, mais foutez-nous la paix. Je porte ça comme ci, je porte ça comme ça, mais arrêtez d'en parler toutes les deux minutes. Vous n'êtes pas mes porte-parole. Et je peux vous assurer que, à mon avis, c'est une très grande majorité de ceux qui ont des tendances homosexuelles qui sont particulièrement blessés et dérangés de toute cette publicité indécente. Oui.
Par définition, je vous parle de, oui. On va dire médicalement parlant, ils sont pour la plupart, hein, on va dire 70-80%, portés sur l'autre sexe. Donc ils ont, on va dire, un homosexuel classique, c'est on va dire une centaine de partenaires par an.
Pas par an, dans la vie. C'est déjà pas mal.
Enfin,
vous voyez, il y a des statistiques.
Un dans les clubs, c'est 100 par an.
Oui, mais c'est rare. Actuellement, les statistiques, parce que j'ai fait ma thèse sur la question, sur le mariage.
Sur les homosexuels.
Oui, j'ai dû la définition du mariage. Donc, un hétérosexuel a environ 10 partenaires dans sa vie, et un homosexuel 100, 10 fois plus. C'est une moyenne. C'était aux États-Unis. Sur une vie. Et c'est déjà beaucoup, 10 fois plus. Il y a une souffrance, il y a une recherche de la jeunesse. Du beau visage, du beau corps, vous voyez. Pour certains, parce que d'autres n'ont pas ont une tendance différente. Parce qu'on met tout le monde dans des cases systématiquement. Enfin, en tout cas, c'est particulièrement indécent. Et saint Paul nous disait justement qu'il ne fallait pas creuser tout ça. Et d'où la confession. La confession, c'est le sanctuaire où l'âme se livre en paix et n'est pas jugée dans le sens où il n'est pas condamné. Mais il regrette, oui.